en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de l'Académie, chers amis, je suis très honoré d'être parmi vous cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Dieu se porte bien. À rebours des prophéties qui proclamaient la mort de Dieu, reprenant Nietzsche et son cortège de disciples, la religion est aujourd'hui au cœur du social et des réalités géopolitiques. Si l'islam occupe une place de choix dans les médias pour diverses raisons, on ne saurait oublier l'attraction exercée par le christianisme. Première religion du monde sur le plan démographique, c'est aussi une offre spirituelle qui progresse et se réinvente. Ce qui nous rappelle au passage que le christianisme, c'est avant tout un vecteur d'entrée dans la religion et dans la foi. C'est ici un petit clin d'œil à Marcel Gauchet. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, un film de Jean-Pierre Melville, Léon Morin prêtre, annonçait en partie ce renouvellement du christianisme. Sorti dans les salles en 1961, ce film campe l'abbé Morin, interprété par Jean-Paul Belmondo. Ce prêtre singulier est très soucieux d'accompagner jusqu'à la conversion une jeune femme communiste qui s'appelle Barney, avec laquelle il dialogue. Très fervent, ce prêtre est en même temps en tension avec son église. À propos des dorures et statues de l'église paroissiale, il déclare « Il faudrait mettre le feu à tout ce bazar ». Plus loin, il s'emporte contre les mentalités routinières qui arrêtent, pense-t-il, le progrès de l'église. Soucieux d'un accompagnement individualisé des fidèles, à commencer par celui de la narratrice, il suggère, au moment où son interlocutrice bascule vers la foi, « Vous n'avez pas pensé à devenir protestante ? Ils sont souvent merveilleux, ces gens-là. » À la réponse indignée de la convertie, l'abbé Morin enfonce le clou en répliquant « Je ne me moque pas, je dis ce qui est ». Plus loin encore, l'abbé rêve de nouvelles formes d'accueil et il songe à haute voix aux cathédrales de cristal, dit-il, qui se construiront un jour. Alors, ne nous y trompons pas, l'abbé Morin est un prêtre catholique. Il est fier de sa mission. Mais dans son aspiration à un christianisme plus individualisé, plus innovant, plus communautaire aussi, moins ritualiste et porté par une exigence mystique christocentrée, il concentre, presque à la manière d'un type idéal weberien, des tensions qui traversent l'ensemble du christianisme occidental contemporain. On peut les résumer ainsi en suivant Jean Delumeau. D'un côté, une chrétienté d'observance traditionnelle qui s'estompe, la fin de ce que Jean Delumeau appelle le christianisme comme pouvoir, encadrant les masses par le rite et le rattachement territorial. De l'autre, l'essor d'un christianisme de conversion, plus individualisé, porté avant tout par la communauté des croyants. Le protestantisme évangélique constitue sans doute aujourd'hui la principale expression de cette dynamique de recomposition. Ce christianisme à vocation prosélyte touche aujourd'hui environ 610 millions de chrétiens, mais à vrai dire, on n'est pas à 5 ou 10 millions près. Comment en cerner les contours et quelle est son influence géopolitique ? Commençons par rappeler que les évangéliques ne se fédèrent pas dans une église centralisée, en cela ils sont très protestants, ils aiment la diversité, ni même dans un réseau unique. Ils se caractérisent par l'individuation de l'option religieuse, la primauté de l'association de convertis, la fraternité élective, pour reprendre une formule très heureuse de la sociologue du catholicisme Danielle Hervieux-Léger, doublée d'un accent exclusiviste sur le salut en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, c'est ce qu'on appelle le crucicentrisme. Dernier élément récurrent, et non le moindre, le biblicisme, à savoir une lecture très normative et très directe de la Bible, reçue comme parole de Dieu. Issue de la matrice des réformes et des réveils, anabaptisme, piétisme, baptisme, méthodisme et j'en passe, ces protestants évangéliques donc sont 610 millions, c'est-à-dire environ un chrétien sur quatre dans le monde aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Ils se divisent entre une tendance pentecôtiste et charismatique d'un côté qui met l'accent sur l'efficacité de l'agir divin au travers du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit qui réalise des miracles, et d'autre part une tendance plutôt piétiste et orthodoxe qui valorise la doctrine et la pratique droite, l'orthopraxie. On pourrait parler aussi d'ascétisme séculier. Sans institutions centralisées, ces protestants évangéliques ont longtemps été influencés par la culture anglo-saxonne. La planisphère évangélique d'aujourd'hui, et je crois que vous avez une carte sous les yeux, emporte l'héritage. Avec 98 millions d'entre eux en Amérique du Nord, dont 94 millions aux États-Unis, l'oncle Sam doit toujours compter avec cet évangélisme omniprésent dans les débats, au point que le président Barack Obama lui-même, pourtant peu suspect d'acquaintance particulière avec ces milieux, a demandé au pasteur évangélique Rick Warren d'effectuer la prière de sa première investiture, le 20 janvier 2009. Le puissant soutien américain à Israël illustre une autre dimension, aux conséquences géopolitiques naturellement incalculables, de ce poids évangélique qui nourrit aux États-Unis un mouvement sioniste chrétien fort d'environ 40 millions de fidèles. En Europe, l'évangélisme britannique, traditionnellement influent, y compris dans l'Église anglicane, reste animé d'un zèle missionnaire dont le voisin français vérifie toujours l'impact en 2015. Aux antipodes, l'évangélisme océanien, environ 7 millions de fidèles, s'appuie lui aussi sur une culture prosélyte et un substrat théologique et culturel hérité des méthodistes et des néo-puritains anglo-saxons du XIXe siècle. D'un hémisphère à l'autre, l'évangélisme type renverrait au portrait d'un homme blanc, de classe moyenne, parlant anglais, zélé dans son témoignage de foi, et adossé à des valeurs conservatrices qui peuvent le conduire à l'engagement politique actif. Mais conclure le survol évangélique sur l'image arrêtée de l'oncle Sam constituerait une erreur. L'influence américaine connaît depuis 30 ans un déclin structurel qui annonce une prise de pouvoir pour bientôt, celui des évangélismes des Suds, dont les prophètes, apôtres, missionnaires, prédicateurs, servantes du Seigneur, et j'en passe, on trouve de tout, animent avec ferveur les banlieues des grandes cités européennes. Des pays comme le Brésil, 46 millions d'évangéliques, le Nigeria, 54 millions d'évangéliques, le Kenya, 20 millions, le Congo, République démocratique, Kinshasa, 15 millions, la Corée du Sud, 9 millions, alimentent une part croissante des effectifs missionnaires mondiaux. Ils apportent avec eux des ritualités, des styles de prédication qui témoignent de recomposition endogène. Cette montée en puissance des Suds ne se fait naturellement pas sans tension, ni concurrence, en particulier avec l'islam. Deux continents illustrent cette compétition, l'Europe et l'Afrique, dont salafistes, tabliris, pentecôtistes et évangéliques sillonnent les agglomérations à la recherche de convertis et de zélotes. Ingrédient rêvé pour ce fameux choc des civilisations dont on nous a rebattu les oreilles il y a quelques années? Pas si sûr. Des aires de tension comme le Nigeria dessinent certes un scénario de confrontation brutale, tandis qu'au Maroc et en Algérie, les esprits s'échauffent devant l'essor évangélique qui, bien que marginal, menace l'homogénéité religieuse en place. Mais dans la majorité des cas, la concurrence est pacifique. D'autant plus que pour l'évangélique, comme pour le musulman, le défi principal aujourd'hui, c'est l'incroyance. À commencer par celle de l'européen sécularisé, jugé oublieux de Dieu, oublieux du sacré, soupçonné de repeupler son Olympe déserté avec des avatars de Star Academy. Saïdou Djibou, pasteur évangélique d'origine musulmane, ancien petit caïd de banlieue, reconverti en prédicateur born again, le souligne. Il revendique sa foi en Jésus-Christ, mais sans renier son attachement profond à sa culture musulmane d'origine. Le choc géopolitique présumé entre islam et évangélisme ne serait-il qu'un leurre qui en cache un bien plus profond, celui d'une vision religieuse du monde face à une vision sécularisée qui relègue la foi et la piété dans la rubrique Antiquité brocante. Cette vision religieuse se double d'au moins quatre logiques d'impact, sur lesquelles je passerai rapidement, mais nous y reviendrons, je l'espère, au moment des questions. D'abord, naturellement, la christianisation ou recristianisation du monde, suivant une optique résolument missionnaire, qui investit des ressources très considérables afin de multiplier les implantations chrétiennes nouvelles. C'est la première logique d'impact et la plus évidente, si évidente qu'on l'oublie parfois. Ensuite, deuxième logique d'impact, l'accent sur la responsabilité individuelle. La conversion est celle de l'individu, avec reconfiguration de la biographie personnelle. Troisième logique d'impact, la mise en avant de l'association volontaire ou la fraternité élective militante. Et enfin, cette expression protestante born again mise aussi sur l'entrepreneuriat local en réseau, suivant des dynamiques que l'on peut qualifier de glocales. Alors qu'est-ce que c'est que glocal ? Qu'est-ce que c'est que la glocalisation ? Eh bien, ça signifie que ces églises sont en affinité avec ce fameux slogan altermondialiste qui veut qu'il faut agir local et penser global. En d'autres termes, l'horizon national n'est plus prioritaire. Le local et le transnational priment désormais. Pour le pire ou le meilleur, les évangéliques constituent un des fers de lance des sociétés civiles émergentes face à des États contestés, parfois défaillants. À l'utopie de l'État-providence, elles opposent des welfare churches, des églises-providence, qui entendent proposer une réponse aux besoins individuels par une approche intégrée qui, au mieux, rend palpable, qui sait, l'utopie du royaume de Dieu, avec des guillemets, et au pire, emprisonne dans une église bocale au parfum sectaire. En définitive, et j'ai presque fini, la carte géopolitique de l'évangélisme renvoie à l'émergence d'un nouveau portrait robot de l'évangélique moyen du XXIe siècle. Les traits d'un blanc européen de classe moyenne s'estompent, cédant la place à ceux d'une femme pauvre et basanée d'une mégapole africaine ou latino. Le nouveau portrait robot de l'évangélique aujourd'hui, c'est celui-là. L'heure est à l'inversion progressive des flux, portée par les dynamiques prosélytes et polycentriques de l'évangélisme contemporain. Le colonisé ou l'esclave de jadis, l'oncle Tom, sagement soumis, sagement protestantisé, christianisé par les missionnaires du Nord, donne désormais de la voix sur les estrades, sur les nouvelles chaînes de télévision satellitaires, clamant sa fierté retrouvée, rapportée à des Occidentaux jugés décadents et matérialistes, le vin nouveau d'une conversion puisée aux sources des évangélismes du Sud. C'est la revanche de l'oncle Tom sur l'oncle Sam. Je vous remercie.
Je vais donner la parole d'abord à Alain Besançon.
Merci, Madame la Présidente. Je suis ravi de rencontrer Sébastien Fatt, que j'ai déjà vu, donc que j'ai pillé dans mon livre sur les protestants américains. Pillé en citant quand même. Voilà, je voulais poser une question d'abord sur l'Amérique et ensuite sur le rapport avec l'islam. Si je comprends bien, en Amérique, vous avez des églises qui sont à peu près fidèles à leur stock initial, à leur stock théologique initial. Les presbytériens, enfin ceux qui viennent des puritains, les luthériens qui sont arrivés avec l'immigration allemande, les épiscopaliens primitifs. Ils sont
Parlez dans le micro, Alain, parce qu'on ne vous entend pas bien.
Les épiscopaliens, ce qui viennent des anglicans, etc. Enfin, les catholiques, qui est la grosse église également des immigrés. Et en face, nous avons toute une série de confession dont les contours sont extrêmement flous, hein, parce que il est entendu que le christianisme sort d'une émotion, hein, l'émotion de la conversion fait partie de la foi et la détermine souvent. Alors je pense aux baptistes, aux wesleyens, dans une certaine mesure, les wesleyens sont plus les évangéliques Alors, les évangéliques, qu'est-ce que c'est les évangéliques? Il y a, dans un livre américain que j'avais lu, dont je me souviens plus l'auteur, il disait, les évangéliques, c'est ceux qui sont d'accord avec Billy Graham. Hein, vous avez fait un excellent portrait de Billy Graham. En somme, c'est un homme qui, en somme, définit plus ou moins toute une constellation religieuse. Sa femme était wesleyenne, d'ailleurs. Et lui est, oui, je crois qu'elle était wesleyenne.
Presbytérienne.
Hein?
Presbytérienne.
Presbytérienne. Tout ça, ça devient un petit peu flou, n'est-ce pas? Et méthodisme, pentecôtisme, les baptistes du Sud, c'est une vaste constellation. De sens. Bon, alors, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Ma première question. La deuxième question, c'est vis-à-vis de la mission musulmane, en pays musulman. Parce qu'ils ont quand même des choses à faire valoir aux musulmans. Ils ont des baptistes comme musulmans ont une cache-route ou un début de cache-route, hein, c'est-à-dire l'abstinence. Bon, ils ont en commun l'iconoclasme, hein, qui sont tous les deux sont iconoclastes. Bon, ils ont tous les trois un document fondamental. Vous croyez au Coran, maintenant vous allez croire à la Bible. Si vous y gagnez rien, vous pouvez y gagner, hein. En plus, Dieu, dans la crise émotionnelle qui aboutit à la religion, Dieu devient presque évident. Enfin, presque. Et là, nous sommes assez proches de l'islam. Et enfin, l'islam est transnational. Il ne s'appuie pas sur des groupes d'origine ethnique comme sont les catholiques, les luthériens, les épiscopaliens, etc. Voilà, c'était les deux questions que je voulais vous poser.
Merci. Merci. Jean Béchler.
Oui. Merci, madame. La semaine dernière, on a eu droit à un exposé qui nous expliquait comment on était sorti de la religion sans nous préciser dans quoi on était entré. Votre propos d'aujourd'hui suggère ou laisse suggérer qu'on est sorti de la fausseté de la religion pour entrer peut-être dans la vérité de la religion. Vous ne l'avez pas dit. Mais sur deux points, c'est plaidable. Le premier que je laisse de côté, mais c'est une nouvelle sociabilité religieuse. Et c'est tout de même tout à fait essentiel. On est sorti du système constantinien, pour simplifier. Alors, je voudrais vous poser une question d'ignorant sur un point très précis. Jean Guiton a soutenu quelque part l'idée que je crois intéressante que la Trinité est composée de trois personnes, jusqu'ici et dans les âges successifs, Dieu le Père avait été privilégié, à d'autres occasions c'est Dieu le Fils, mais que le Saint-Esprit était un peu ignoré, un peu perdant. Et il prédisait que l'âge du Saint-Esprit allait commencer, que nous étions entrés dans l'âge du Saint-Esprit. Or, c'est très exactement ce que... Alors, si vous pouviez développer un peu cette idée, qu'est-ce que ça donne? Enfin, ça donne pas seulement raison à Jean Guiton, mais qu'est-ce que ça donne dans les faits? Enfin, merci.
Ça donne raison à Joachim, peut-être. Madame Bastide-Brugère.
Vous avez évoqué à un moment la logique missionnaire. Et je voudrais vous interroger, ces églises évangéliques, elles sont beaucoup moins structurées que les églises protestantes ou l'église catholique ou l'église orthodoxe. Alors, est-ce qu'elles ont réellement le moyen de mobiliser de l'argent, des hommes, pour aller prêcher ailleurs ou non? J'aimerais savoir ce que vous savez là-dessus. Et ce que vous avez appris là-dessus, parce que dans votre carte, on voit bien qu'en Chine, il y a un gros rond, vous n'en avez pas parlé, mais c'est un élément très important en Chine et qui terrifie les autorités, qui oscillent entre la reconnaissance, parce qu'après tout, ce sont des gens vertueux, en principe. Donc, tant mieux, ça améliore la moralité du peuple. Mais d'autre part, c'est extrêmement dangereux parce que ça échappe complètement au contrôle politique. Et ils prétendent que les Américains, bien entendu, les services secrets américains, mettent énormément d'argent pour saisir les pauvres Chinois, les femmes abandonnées dans les banlieues, etc. Et tout. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement dans l'évangélisme de l'action missionnaire dans ses moyens ? Merci.
Merci, Monsieur Merci. De la Rosière.
Oui, quelques questions qui, certaines d'entre elles, recoupent ce qui a déjà été évoqué. Première question, l'évangélisme mort, entre guillemets, sur quelle religion pour compter ces, ces centaines de millions d'adeptes, ces 610 millions d'adeptes que vous avez évoqués? Est-ce que c'est sur le catholicisme qu'il mort? Est-ce que c'est sur les confessions protestantes? Est-ce que ce sont de nouveaux adeptes au christianisme? La deuxième question, c'est quels sont les fondements dogmatiques? Je crois que les évangélistes croient en Dieu, ils croient en Jésus-Christ, ils croient dans la résurrection, me semble-t-il. Je crois qu'ils croient au Saint-Esprit. Et mais dites-moi quelles seraient les zones de conflit ou de vide par rapport, disons, à des religions comme le protestantisme ou le catholicisme. Est-ce qu'il y a des points désertiques, des points qui ne sont pas évoqués ou d'autres? La troisième question, c'est qui finance? Parce que quand on voit qu'il y a une très forte implantation aux États-Unis, l'ordre de 100 millions, qu'il y a une très forte implantation au Nigeria ou en Chine, on ne peut que se poser la question de Madame Bastide Bruguière, qui est, est-ce qu'il y a quand même des vases communicants? Est-ce que l'oncle Sam, avec toute sa richesse, apporte quand même pour le prosélytisme des pays moins développés? Et alors, si c'est le cas, on aimerait savoir, bien que vous ayez dit qu'il n'y avait pas de centralisation, on aimerait savoir tout de même si il n'y a pas une sorte de comment dirais-je, de mécanisme même très informel qui explique les rapports entre ces différents éléments de la map monde que vous avez si bien évoqué. Merci.
Merci. Merci Alain Duhamel.
Merci Madame le Président. Je voudrais poser quelques questions prosaïques à propos des évangéliques en France. J'aimerais d'abord que vous les dénombriez, ensuite que vous nous expliquiez dans quel milieu ils se développent, dans quelle province, quelle est la part, par exemple, de ceux qui viennent des Antilles ou d'ailleurs, des banlieues parisiennes, comment est-ce qu'ils se structurent, quelles sont leurs relations avec la Fédération protestante, puisque certaines églises évangéliques ont des relations avec la Fédération protestante et d'autres, au contraire, s'y refusent, ou quelquefois sont d'ailleurs mal accueillies. Donc, c'est un problème à définir. Dans quelle mesure certaines, en tout cas, de ces églises évangéliques en France relèvent-elles de formes de sectarisme? Est-ce qu'en pensent les missions dont le rôle est de contrôler les mouvements sectaires? Et enfin, quelles sont vos hypothèses, voir vos données, sur les votes politiques des évangéliques en France, puisque, à ma connaissance, ils sont assez typés. Je vous remercie.
Merci. Merci. Rémi Brague.
Merci. J'ai été tout à fait intéressé par la carte du monde. J'aime bien penser, de manière géographique, même si Jean-Robert Pitt n'est pas parmi nous, je voudrais vous poser donc trois questions en allant d'ouest en est. Je constate que l'évangélisme mort sur l'Amérique latine par le nord, donc par le Mexique et par le Guatemala qui en est le voisin immédiat, est-ce que il réussit à mordre sur les autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud? L'Argentine est présente, mais bon, les autres brillent par leur absence. Est-ce que l'on a une idée de la raison de cela? Est-ce que c'est simplement la proximité des États-Unis ou des choses de ce genre-là? En ce qui concerne l'Ukraine, Je suppose que vous n'avez pas mis les présences inférieures à 1 million. Hein, je pense que le petit rond bleu, c'est le minimum. Donc il y aurait environ 1 million d'évangélistes en Ukraine. Dans quelle moitié de l'Ukraine se trouve-t-il ? Facile, on a une idée de cela. Et en Indonésie, ben, un petit peu même question. Enfin, pour l'Indonésie, même question. C'est quand même un pays à très grande majorité musulmane. Il y a des chrétiens dedans. Ma question rejoint celle de monsieur de la Rosière. Enfin, sur quoi, quel est leur fonds de commerce? Enfin, qui convertissent-ils, si je puis dire? Merci.
Merci.
Merci. Michel Pébreau.
Merci, Madame le Président. J'ai été très intéressé par cet exposé. Je voulais poser 3 questions qui recoupent assez largement des questions déjà posées. La première, c'est quelles sont les formes de l'influence politique des évangélistes aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont concentrés sur l'un ou l'autre des deux partis? Et comment s'exprime leur pression politique éventuelle? La deuxième question est dans le domaine économique. On caricature souvent les mouvements évangéliques en France autour de l'idée de sectes à la recherche de profits financiers. Quelle est votre analyse de ce problème au niveau plus international, c'est-à-dire y a-t-il des pays dans lesquels cette critique serait fondée ? Puis ma troisième question est relative à la place de l'Ancien et du Nouveau Testament dans l'évangélisme. Y a-t-il des différences selon les différentes écoles dans la place donnée à l'un par rapport à l'autre ? Merci.
Merci. Bertrand Sassernin.
Merci, Madame le Président. J'ai été très intéressé par votre conférence, monsieur. Je voulais simplement vous demander s'il y a un lien entre les mouvements évangéliques et le fondamentalisme.
Merci.
Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, moi, je voudrais vous demander pourquoi, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique subsaharienne, il y a à la fois une poussée des évangélistes, mais également une poussée de l'islam. Et on a l'impression que l'islam mord beaucoup plus sur la population de ces pays d'Afrique de l'Ouest, où je suis allé pendant une dizaine d'années présider les thèses des médecins, beaucoup plus que celle des évangélistes. On a l'impression que l'islam arrive maintenant à descendre tout doucement vers l'Afrique du Sud, d'année en année.
Bruno Cotte.
Oui, deux toutes petites questions sur l'Afrique. J'ai bien vu les ronds bleus. Est-ce à dire qu'en dehors des ronds bleus, il n'y a rien ? Ou est-ce que c'est vraiment minime ? C'est la première question. Et la seconde question, c'est sur la République démocratique du Congo. Plusieurs des personnes qui ont parlé avant moi ont souhaité connaître l'influence politique éventuelle des évangélistes en France ou ailleurs. Dans ce pays qu'est la République démocratique du Congo, qui est parcouru depuis plus de 20 ans, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, par des conflits incessants. Quel est le rôle, quelle est la part de ces églises évangéliques? Je vous pose la question, parce que le hasard fait que professionnellement, pendant ces 6 dernières années, j'ai un peu travaillé sur cette région-là, et j'ai vu à quel point les témoins qui comparaissaient devant la Cour pénale internationale tenaient à dire qu'il faisait partie de l'église évangélique CK20, CK11, enfin, etc. Et on a l'impression qu'il y a une constellation d'églises dont je ne suis pas, à mon grand désespoir d'ailleurs, parvenu à bien comprendre comment elles se fédéraient, si elles se fédéraient, ou si au contraire elles se concurrençaient, quelle était la part, de prosélytisme rampant ou affiché, enfin, voilà. Et comme c'est un pays qui apparemment est loin d'être sorti de ces convulsions, est-ce qu'une confession, est-ce que les évangélistes ont un rôle à jouer là-dedans, ou est-ce qu'ils sont au contraire des porteurs d'huile sur le feu?
Merci.
Merci. J'ai 2 petites questions à vous poser pour finir. La première, que pensez-vous de la thèse de Louis Dumont dans le livre sur la pensée, sur l'idéologie allemande, où il dit que le protestantisme était une sorte de vaccin contre des lumières trop excessives et a permis que ne se déploient pas dans certains pays des révolutions trop violentes. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que l'évangélisme pourrait être d'une certaine façon un destin d'avenir dans les régions occidentales, dans la mesure où il s'agit quand même d'un christianisme individualiste, bien sûr, et d'une certaine manière déstructuré, au fond, et où ça correspond quand même, me semble-t-il, à l'esprit du temps. J'ai été toujours très étonnée, au début des années 90, quand on donnait des cours en Amérique latine, la plupart de nos collègues universitaires étaient largement, je dirais, ensoviétisés, et quoique hispanophones, naturellement, chaque fois que quelqu'un parlait russe dans le campus, tout le monde répondait en russe, enfin, c'était absolument incroyable. J'étais frappée de voir tous ces gens qui étaient, on dirait aujourd'hui, en quête de sens, passer directement du marxisme à l'évangélisme, plutôt qu'à toute autre religion. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Merci à vous de répondre à toutes ces questions qui vous agréent.
Merci beaucoup. C'est une moisson extraordinaire là de stimuli et je vais essayer de faire de mon mieux. N'hésitez pas à me rappeler s'il y a un tel ou tel point que j'ai oublié d'éclairer hein, par mes réponses, parce que là vos questions sont extrêmement extrêmement riches et je ne voudrais pas rater quelque chose d'important. Alors première question, double question en fait. D'Alain Besançon, sur l'Amérique, la diversification du protestantisme aux États-Unis, et puis la question de la confrontation avec l'islam, avec notamment aussi un certain nombre de points de convergence en réalité avec l'islam. Alors d'abord très rapidement sur le protestantisme nord-américain. Très longtemps, on a décrit le paysage protestant nord-américain en termes de mainline churches d'un côté, c'est-à-dire les églises issues de l'histoire coloniale, les presbytériens en particulier, les épiscopaliens, les grandes églises installées, sachant qu'avant l'indépendance, ça on l'oublie souvent, mais il y avait des églises établies dans les colonies américaines, et donc les héritières de ces églises ont longtemps été appelées les mainline churches, sauf que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'alternative évangélique, fondée sur l'héritage des réveils aux États-Unis, a pris le relais de plus en plus. Les mainline churches sont maintenant décrites aux États-Unis comme les sideline churches. Et ce sont en fait les protestants évangéliques qui, je dirais, occupent maintenant un peu le ventre mou du protestantisme américain. Excusez-moi, l'expression n'est pas très heureuse, mais elle décrit bien cette nouvelle centralité, finalement, des évangéliques aux États-Unis, y compris en termes politiques, sachant que entre un quart et un tiers du parti républicain aujourd'hui aux États-Unis est sous influence de l'évangélisme, ce qui constitue une étape considérable dans l'histoire politique des États-Unis. Ça n'était absolument pas le cas il y a 30 ans, 30 ou 40 ans. Les évangéliques américains, longtemps, votaient plutôt démocrates. Mais à partir des années 70, il y a eu un basculement massif et puis par ailleurs une politisation aussi importante des évangéliques américains, si bien qu'ils constituent aujourd'hui un soutien considérable du parti républicain.
Pas habitué à ça, mais en Amérique, il est extrêmement naturel de changer de confession au cours de sa vie, selon les circonstances de sa vie, la location où on se met, etc. Ça, c'est donc
absolument.
C'est plus fou.
Absolument. Et les grandes mainline churches, anciennement mainline churches, ont perdu des millions de membres au profit de ces nouvelles églises évangéliques, mais qui effectivement sont moins centralisées, plus difficiles à repérer. Même s'il faut souligner quand même l'importance du grand réseau nord-américain évangélique qui s'appelle la National Association of Evangelicals, qui a des locaux à Washington et qui pèse de manière directe sur le Sénat américain, qui a une logistique quand même relativement importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une logique centrifuge, un émiettement. Il y a aussi des logiques de réseau qui sont quand même assez importantes, particulièrement aux États-Unis. C'est pas forcément vrai partout ailleurs. Alors ensuite sur l'islam. Je vais vous raconter une petite histoire. Pendant 3 ans, j'ai été amené à faire cours sur le protestantisme aux imams à l'Institut catholique Vous savez, la première formule de formation des imams, hein, qui était conduite par Olivier Bobineau à l'Institut catholique, bon, qui maintenant a été relayée aussi par d'autres formes, eh bien, j'étais l'enseignant chargé de présenter un petit peu l'histoire, la sociologie du protestantisme à ces imams. Alors, je vous avoue que j'ai vraiment appris beaucoup. C'était absolument passionnant et j'avais des élèves passionnés. Alors, je vais en venir directement au fait. Lors de mon premier cours, un imam m'interpelle au moment où j'évoque précisément les mouvements de réveil aux États-Unis, les missions évangéliques. Il m'interpelle et il me dit « Mais monsieur, qu'est-ce que nous représentons pour les évangéliques ? Nous sommes quoi pour les évangéliques ?» Alors là, je lui ai répondu sans langue de bois. Je lui ai dit « Écoutez, monsieur, les évangéliques considèrent que les musulmans sont dans l'erreur, qu'ils ne seront pas sauvés s'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, non seulement comme un prophète, mais comme le Fils de Dieu, mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur salut, et donc les évangéliques vont chercher à vous convertir. » Et alors là, j'étais stupéfait de la réaction de ces imams. Ils m'ont dit « Ah mais monsieur, ils sont comme nous !» Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que le fait que je leur donne une réponse sans langue de bois, si vous voulez, qui sorte un petit peu d'un certain discours interreligieux, nous irons tous au paradis, les a aussi décomplexés, et ils m'ont donné le fond de leur pensée. Et effectivement, à la fin de mon premier cours, et ça s'est répété les deux années qui ont suivi, j'avais toujours au moins un ou deux imams ou aspirantes aumônières qui venaient vers moi, avec l'évangile selon Barnabé, donc un texte, c'est même pas apocryphe, enfin c'est un texte bon, que les musulmans utilisent pour essayer de convertir les chrétiens, et ils cherchaient à me convertir. Ils cherchaient à me convertir, et ils sont bien persuadés que les chrétiens sont dans l'erreur. Et le fait que je leur donne cette réponse sur l'exclusivisme évangélique leur a permis aussi de dire « bah oui, nous pensons bien que l'islam, c'est le chemin ». Et du coup, au-delà, je dirais, de la logique confrontationnelle, il y avait aussi finalement un grand terrain d'entente, dans le fond. C'est-à-dire un rejet d'une sorte d'indifférentisme. Pour les musulmans, la question de la religion, c'est fondamental, c'est très important. Et pour les évangéliques aussi. Parce qu'on est quand même dans la question des fins dernières, du sens à donner à sa vie, et même à l'au-delà de la vie. Et donc c'est des questions fondamentales, et on n'est pas dans l'indifférentisme, on est vraiment sur des questions de fond. Et là-dessus, évangéliques et musulmans, paradoxalement, se retrouvent assez volontiers. Et vous avez souligné aussi l'iconoclasme. Pendant mon cours, chaque année, j'ai eu des réflexions de ces imams me disant « Mais monsieur, vous êtes sûr que Calvin n'était pas musulman ?» Parce que cet iconoclaste des Huguenots, notamment, qui ont martelé quand même un certain nombre de portails de cathédrales en France durant les guerres de religion, alors ça leur paraissait plutôt sympathique dans le fond. Pardon ? Et effectivement, l'ascétisme. L'un des grands reproches que font nos amis musulmans aux chrétiens, c'est certainement pas d'être chrétien, c'est de ne pas l'être assez. C'est de ne pas l'être assez. Ils considèrent que les Occidentaux, les chrétiens notamment, ne prennent plus du tout au sérieux la transcendance, ne prennent plus au sérieux la notion de révélation extramondaine. Et quelque part, quand ils rencontrent des chrétiens convaincus, loin d'être effarés ou de sortir l'âge de guerre, eh bien, quelque part, ils dialoguent bien, bien volontiers. Toujours une petite histoire, très rapidement, mais j'ai vécu 2 ans en Égypte à côté d'un quartier islamiste. J'étais enseignant chez les jésuites pendant 2 ans, au grand lycée jésuite du Caire. Et j'habitais donc à côté de Saïda Zainab, qui est l'un des grands quartiers islamistes du Caire. Et pour prendre le métro, je traversais ce quartier tous les jours, pour aller donc Midan Ramsis, enseigner chez les jésuites. Et traversant ce quartier, j'ai petit à petit découvert qu'il y avait des repasseurs coptes, des petits métiers coptes, y compris des coptes évangéliques, avec de grands posters de la Vierge, du Christ, des versets bibliques en très grand. Et les salafistes passaient à côté, je veux dire, ça ne se passait pas du tout sur le mode du choc des civilisations. En revanche, quand en face du musée du Caire, vous aviez de temps à autre des quarts de touristes, américains ou autres, avec des touristes en mini-short et t-shirt moulant, sortant, prenant des photos un petit peu partout comme s'ils étaient au zoo, excusez-moi, mais le choc des civilisations, il était bien davantage à ce niveau-là, qu'entre le repasseur copte très très chrétien, si je puis dire, très conversionniste, et le salafiste qui passe dans la rue. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a peut-être plus de convergence qu'on ne le pense, en fin de compte, entre cette offre chrétienne et coranisme et biblicisme également. effectivement. Lorsque j'évoquais à mes élèves musulmans la fameuse controverse entre Luther et Erasme, Erasme qui valorise le libre arbitre, et puis Luther qui lui répond par le traité du serf arbitre et qui décrit la raison comme la putain du diable, excusez-moi, avec des gros guillemets, excusez-moi, j'espère que ça n'offensait personne, mais c'était le propos de Luther qui avait un langage assez vert, notamment après un boc de bière, il pouvait avoir des formules assez vertes. Et alors quand j'ai raconté ça à ces imams, là encore, ils m'ont dit mais monsieur, vous êtes sûr que Luther n'était pas musulman? Et je leur dis non, pas du tout. Et si vous lisez ce que Luther a parfois écrit sur la menace ottomane, vous verrez que non, il n'était pas du tout musulman. Mais cette idée de la soumission de la raison à la révélation divine, ça c'est effectivement un autre point de convergence tout à fait important entre musulmans et cette offre protestante de type évangélique. Voilà, on pourrait encore développer, mais j'espère avoir apporté quelques éléments d'éclairage. Alors, deuxième volet de questions. Oui, j'ai noté l'expression « on est sorti du système constantinien ». Je crois que là, nous avons un dossier passionnant d'études. Nous n'en sommes qu'au début, mais il me semble que là, on a notamment un paradigme œcuménique extrêmement important. Et je pense notamment à la grande biographie de George Weigel de Jean-Paul II, où il développe cette idée d'un catholicisme post-constantinien. Longtemps, la culture catholique a été marquée par le modèle constantinien, hein, qu'on l'aime ou qu'on le regrette, mais ça a été un fait durant quelques siècles. L'Église catholique aujourd'hui, culturellement, est sortie de ce modèle, et le Saint-Père actuel s'inscrit, hein, me semble-t-il, dans cette logique post-constantinienne. Les évangéliques, eux, je dirais, sont pré-constantiniens à leur manière, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accepté le compromis constantinien, ils n'ont jamais accepté la logique d'église d'État, la logique de chrétienté, ils ont toujours milité pour l'association locale de convertis. Et dans la mesure où cette gigantesque parenthèse constantinienne s'est fermée, ou est en train de se fermer un peu partout, il me semble que là, chrétiens de toute tendance sont face finalement à des défis très très similaires, ceux de témoigner d'une transcendance dans un monde pluraliste, profondément pluraliste, parfois sécularisé, ce qui est le cas de la société européenne, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'autres aires culturelles, bon, c'est le cas en Europe en tout cas, et où les églises, à nouveau frais, et quelles que soient les églises, eh bien, sont amenées, dans cet univers incertain et pluraliste, eh bien, à présenter la différence chrétienne. Alors, il y avait une question sur... oui, pardon. Jean Guiton et la Trinité. Absolument. Absolument. L'une des grandes questions qui tourmente aujourd'hui beaucoup de sociologues des religions, et notamment de spécialistes du protestantisme, c'est, eh bien, où s'arrête le protestantisme et où commence autre chose? Et je vous dirais très sincèrement que, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'assister à l'émergence d'autre chose dans la sphère chrétienne, qui n'est plus ni catholique, ni protestante. Et ça, on l'observe y compris dans certaines banlieues de notre cher pays de France. J'entends par là que, historiquement, le catholicisme, en une phrase, c'est quoi? C'est un christianisme qui place le cœur de la légitimité dans une institution sainte et sacrée. Alors, il y a tout le reste, évidemment, il y a la Trinité, la doctrine, mais le rapport du catholique à son identité, c'est le rapport à la Sainte Mère, l'Église. Pour le protestant, il y a translation. Ce n'est plus l'institution qui est au cœur, c'est le rapport au texte. Le fameux principe du sola scriptura protestant. Finalement, l'étiquette confessionnelle pour le protestant est secondaire. Si l'église dans laquelle il est ne lui plaît pas, il peut toujours la quitter et en créer une autre. Il a un rapport assez utilitaire, finalement, à l'église. En revanche, la relation au texte fait l'identité du protestant. Ce qui se passe aujourd'hui, quand même depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que dans les nouvelles nébuleuses pentecôtistes et charismatiques que nous observons, et qui sont en croissance exponentielle un peu partout, on a quand même le sentiment, en observant ces communautés, qu'on n'est ni dans un rapport consubstantiel à l'institution, à une institution sainte, ni dans un rapport fondamental au texte. On est dans un solus spiritus, excusez-moi l'expression, ce néologisme, nouvelle formule. Finalement, c'est l'inspiration qui est au cœur de la légitimation du groupe. C'est l'inspiration. C'est cette chrétienté pneumocentrée, finalement, hein, cette centralité de l'esprit, de la révélation, du miracle, qui est au cœur, et finalement, le reste est un peu secondaire. Or là, me semble-t-il, on n'est plus ni dans le catholicisme, ni dans le protestantisme. Il est un peu tôt pour construire de nouvelles catégories, mais il faut y réfléchir. Parce que ce nouveau christianisme, il est aujourd'hui partout, il se développe rapidement. Et pour ma part, je souhaite que dans 5 à 10 ans, lorsqu'on fera appel aux sociologues et aux historiens des religions, je souhaite qu'on cesse de comptabiliser comme protestants toutes ces églises néo-pentecôtistes, néo-charismatiques qui, à mon sens, constituent bel et bien un nouvel univers chrétien. Et là, je ne suis pas dans le jugement de valeur, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est en tout cas un nouveau christianisme. Et ça mérite d'y réfléchir à nouveau, frère. Disons que le dogme vient en second. Effectivement, l'inspiration est première, le dogme vient en second. Ça ne veut pas dire qu'il est accessoire. Il y a quand même une régulation aussi par le texte biblique dans ces nouvelles églises charismatiques, et cette régulation n'est pas négligeable, d'autant qu'elle joue parfois pour prévenir des dérives sectaires. Parce que c'est une chose que le pasteur se prévale d'une révélation venant de Dieu, et c'est autre chose que cette révélation soit déconnectée du type d'enseignement doctrinal à fondement biblique enseigné dans l'Assemblée. Et dans ce deuxième scénario-là, en principe, l'Assemblée peut validement contester l'autorité du pasteur au nom de la référence scripturaire. Quand ça ne peut pas se produire, eh bien là, à mon sens, on est dans la dérive sectaire, on est dans la logique d'un pasteur gourou, où finalement la révélation personnelle prend le pas sur le reste, et notamment, et en particulier, la révélation divine telle qu'elle se translate au travers de l'interprétation des textes.
Madame, puis-je dire un mot, s'il vous plaît ? Non, mais c'est pour prolonger, trouver un autre point de contact avec l'islam. Tout ce que vous venez de dire colle plus qu'assez bien, très bien, avec le monde des confréries musulmanes.
Absolument.
Des tariats, des tekés, etc. Absolument. C'est exactement la même idée que c'est l'inspiration. L'inspiration vécue, sentie,
absolument.
C'est la sensibilité religieuse qui est au centre. Alors, bien entendu, il y a un encadrement dogmatique, il y a un encadrement également, social au sens d'organisation, mais c'est l'inspiration qui est au cœur.
Ah, absolument.
Ça va dans ce sens-là.
Absolument, et ce n'est pas un hasard si beaucoup des nouvelles communautés néo-évangéliques d'Afrique du Nord sont en fait plutôt de tendance charismatique et pentecôtiste. Ce n'est certainement pas un hasard, absolument. Absolument.
C'est le congrégationalisme puritain qui a donné, si vous voulez, la matrice, le style d'organisation.
Tout à fait. Tout à fait, c'est la fraternité élective, c'est l'association locale, effectivement, des fidèles. Et ça, soit dit en passant, effectivement, c'est un autre point commun aussi avec l'islam sunnite. Non pas l'islam chiite, qui est beaucoup plus hiérarchique et beaucoup plus structuré, mais l'islam sunnite se reconnaît très bien dans les structures sociales du protestantisme. Et d'ailleurs, et j'espère que nous aurons le temps d'y revenir tout à l'heure, et d'ailleurs, à mon sens, c'est une des clés pour essayer de sortir de ce serpent de mer, terrible, de la structuration de l'islam en France, où politiquement, on n'a toujours pas compris que c'est ingérable par le haut. Ce n'est pas en créant un CFCM bis, troisième version, quatrième version, par la vertu de l'autorité jacobine, qu'on arrivera à structurer l'islam en France. L'islam en France est extrêmement multiple, extrêmement divisé, et c'est dans une logique bottom-up à la protestante qu'il arrivera un jour à se structurer de manière représentative et certainement pas par décret jacobin. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que c'est un point extrêmement, extrêmement important. Alors, oui, donc l'âge du Saint-Esprit, en effet, je crois que c'est une question fondamentale aujourd'hui qui se pose pour les chercheurs qui travaillent sur le christianisme. Et je crois que nous y sommes. Nous y sommes et dans quelques années, nous aurons créé, je l'espère, de nouvelles catégories pour analyser correctement ce vaste phénomène social. Alors, troisième question. Oui, les logiques missionnaires, le substrat financier, la Chine. Question très riche. Alors d'abord, les logiques missionnaires. Je vais juste donner un exemple très très bref. Les plus grosses méga-churches nord-américaines notamment Saddleback en Californie, la méga-church du pasteur Rick Warren, ou Willow Creek près de Chicago, qui est une méga-church de plus de 20 000 fidèles, ont des budgets comparables à ceux des clubs de la Ligue des Champions, des clubs de football de la Ligue des Champions. Donc vous avez des communautés qui sont autocéphales, mais qui ont des budgets qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, largement supérieurs au Conseil œcuménique des Églises. Tout ça pour vous donner une idée de l'impact de ces églises. Alors naturellement, là je donne quand même des exemples un peu particuliers. Toutes les églises évangéliques ne sont pas des giga-church ou des méga-churches. Néanmoins, il faut souligner la capacité de mobilisation de ressources globalement des églises, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines. Nous sommes dans une culture de militants, de convertis militants, c'est-à-dire que le membre d'église est quelqu'un qui est pratiquant, qui s'engage et qui participe financièrement très activement à la vie de sa communauté, assez souvent dans la perspective de la dîme, hein, c'est-à-dire verser à peu près 10% de ses revenus. Alors quand on étudie de près les budgets d'église, on s'aperçoit que l'objectif de la dîme n'est quasiment jamais atteint, hein, les fidèles donnent moins. Néanmoins, même s'ils donnent moins, c'est beaucoup plus que le denier du culte. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est beaucoup plus que le denier du culte. Et comme ces églises sont avant tout mobilisées vers l'évangélisation, elles dépensent assez peu pour d'autres choses. Ce qui fait qu'elles sont en mesure, assez régulièrement, de mettre en place des événements considérables. Et en France, dans quelques semaines, il y aura à Paris la visite d'une évangéliste américaine, Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la visite de cette évangéliste, qui est l'une des plus connues au monde aujourd'hui. C'est la Billy Graham au féminin, si vous voulez. Elle va organiser une grande campagne à Villepinte. Et il y a déjà 8000 inscrits. 8000 inscrits franciliens. Donc des capacités d'intervention assez importantes, sur le mode non seulement d'un soutien des communautés, mais aussi de ce qu'on appelle les organisations para-church. Alors qu'est-ce que c'est que les organisations para-church ? Ce sont en fait des structures transversales qui drainent des ressources au niveau de toutes les églises et qui compensent l'émiettement évangélique par le réseau. Et vous avez notamment l'organisation Portes Ouvertes, qui est spécialisée sur l'aide aux chrétiens persécutés, qui est une de ces grandes organisations para-church évangéliques, qui a aujourd'hui pignon sur rue, d'ailleurs dont les données, les rapports sont repris dans La Croix, dans la presse française. Bah, c'est un exemple d'organisation para-church de type évangélique et qui a des donateurs dans le monde entier. Donc qui draine des ressources dans le monde entier par le biais du réseau. Donc voyez, on n'est pas simplement dans l'émiettement et dans le localisme, on est aussi dans le global, dans le réseau global, par le biais de ces grandes missions et de ces organisations transversales. Alors la Chine, oui c'est vrai, j'aurais pu en parler un petit peu. Ce qui est tout à fait fascinant en Chine, c'est qu'actuellement, depuis quelques années, il y a des hauts dignitaires communistes qui deviennent évangéliques. Alors je ne sais pas vers quoi on s'oriente, mais effectivement, et vous l'avez souligné très justement, il y a des tensions actuellement en Chine entre une tendance, je dirais, tendance du vieux communisme, très très hostile par nature à la différence chrétienne, surtout une différence de type exclusiviste, mais en même temps, à l'intérieur d'une société chinoise qui s'ouvre de plus en plus aux logiques de marché, aux logiques pluralistes, eh bien, il y a un mouvement de conversion de masse, hein, donc plus de 60 millions d'évangéliques chinois, et des ambitions missionnaires, mais spectaculaires, dont on ne parle pas encore suffisamment en France, mais dans mon laboratoire, nous avons une équipe qui travaille sur les églises chinoises en Île-de-France. Il y en a plus de 20 communautés chinoises très, très prosélytes et très, très dynamiques. Il existe par ailleurs en Chine un mouvement qui s'appelle Back to Jerusalem, qui vise à former 100 000 missionnaires. On est à l'échelle chinoise, hein. 100 000 missionnaires qui vont réévangéliser toute la route de la soie jusqu'à Jérusalem. Et si vous allez sur Internet, vous verrez des notices, hein, qui décrivent ce mouvement. Alors la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis frotté les yeux, mais c'est un peu délirant, c'est un hoax. On n'est pas là dans le réel. Et bien pourtant, si le mouvement existe et est porté par de très nombreuses églises en Chine. Alors par ailleurs, ce qui est intéressant aussi et que j'avais commencé à étudier en 2008 lorsque j'avais publié un ouvrage sur les méga churches, c'est que les autorités chinoises ont désormais changé de stratégie par rapport aux évangéliques en termes spatial. Très longtemps, la présence évangélique en Chine s'inscrivait d'abord dans les églises de maison. Le mouvement des house churches. Sauf que les autorités chinoises très pragmatiques se sont aperçues que pour arrêter tout ce monde-là, c'est impossible. C'est dans la sphère privée, c'est quasiment irrépérable. Donc c'est compliqué. Et les autorités chinoises se sont dit, bah finalement, si on desserrait un peu la pression, et si on permettait la construction de grands lieux de culte évangélique. Et depuis maintenant une dizaine d'années, il y a des méga-churches en Chine continentale, donc plus seulement à Taïwan et à Hong Kong, mais en Chine continentale, principalement sur la côte, des églises énormes, de 4, 5, 6 000 fidèles qui se rassemblent le dimanche, en principe en liberté, sauf que il y a déjà eu plusieurs circonstances où les églises ont été cernées par les camions de police, et où d'un coup, et ça c'est formidable, quelle pêche miraculeuse, si je puis dire, pour les autorités communistes, d'un coup, eh bien, ils peuvent arrêter 6 000 fidèles, 5 ou 6 000 fidèles. C'est très pratique. Autant le mouvement des house churches, vous pouvez absolument pas contrôler les personnes de la même manière, une méga-church, ça permet de concentrer de manière visible une cible potentielle. Et si, entre guillemets, par malheur, telle communauté évangélique ne plaît pas au gouverneur local, eh bien, très rapidement, vous pouvez faire des arrestations massives. Et ça s'est déjà produit. Il y a même eu un cas de destruction de méga-church évangélique qui a été abondamment documenté, notamment sur Twitter, parce que nous vivons à l'ère numérique. Donc ça permet de récolter les informations quasiment en temps réel, parfois.
Oui, ce que j'ai vu...
Alors les Coréens sont extrêmement actifs en Chine, effectivement, sachant que la Corée du Sud est un grand poumon de l'évangélisme asiatique, absolument. Absolument.
Il y a eu plusieurs cas de destruction, oui. C'est assez fréquent. Oui. Moi, ce que j'ai vu, qui rejoint dans une certaine mesure ce que vous dites sur les cadres élevés, c'est que c'était localement des cadres communistes qui étaient laissés pour compte, qui prenaient la tête de communautés de ce genre-là, D'abord parce qu'ils savaient manier les gens, les manipuler, les faire agir, et que ça redonnait un sens à leur vie. Et ça rejoint ce que vous dites sur l'indifférentisme et la nécessité d'avoir un sens à la vie. Et c'est prodigieux.
Ben, je vous remercie pour ces éléments. Alors je vais poursuivre par ordre des questions. Donc la question ensuite portait sur... finalement, où les filets de pêche des églises évangéliques ramassent le plus de poissons? Donc, sur quelle religion mordent le plus les évangéliques? C'était la question. Ah. Ça dépend où, absolument. Absolument, on ne peut pas faire de réponse générale. La seule réponse générale qu'on puisse donner, c'est que les évangéliques évangélisent partout. Absolument, dans tous les contextes, ils le font en Arabie Saoudite, en Iran, en Corée du Nord, mais aussi naturellement dans nos pays pluralistes d'Europe, ils évangélisent sans exclusive, si bien qu'ils touchent des populations très variées, et sur le terrain français, sur lequel nous disposons de données qualitatives, mais aussi de données quantitatives grâce à un sondage IFOP 2010 qui pour la première fois avait permis d'approcher de beaucoup plus près ces fameux évangéliques, on s'aperçoit qu'ils touchent parfois des personnes tout à fait sécularisées, qui n'ont plus d'arrière-plan religieux, quel qu'il soit. Il touche aussi des musulmans. Dans le nord de la France notamment, vous avez certaines églises, je pense à Roubaix en particulier, qui sont composées à 90% d'anciens musulmans. Il y a des dizaines de pasteurs en France qui sont d'anciens musulmans, hein, des dizaines de pasteurs qui sont d'ex-musulmans. Vous avez un grand portail internet animé en particulier par ce pasteur Saïdou Jibou qui s'appelle Makasba. C'est en fait une casbah évangélique où on invite régulièrement d'anciens musulmans raconter comment ils ont rencontré Jésus-Christ, comment ils ont découvert la grâce de Dieu qui les a changés, etc., etc. Donc il n'y a pas d'exclusive. La mission évangélique touche toutes les populations et on rencontre dans les églises évangéliques des profils finalement très divers. Je dirais quand même que la tendance principale, en tout cas en France, c'est naturellement de recruter au sein des catholiques déçus du catholicisme, qui généralement ne sont plus pratiquants, ne sont pas pratiquants ou plus pratiquants, et qui trouvent dans les églises évangéliques des choses à tort ou à raison, enfin qu'ils considéraient ne plus rencontrer dans les sociabilités catholiques qu'ils avaient connues par le passé, notamment la dimension d'accueil chaleureuse, ça ressort souvent dans les données d'entretien, hein, le fait que par exemple dans une église évangélique lambda en France, on s'embrasse. C'est un tout petit détail, mais tout le monde s'embrasse. comme on embrasse son oncle ou sa tante. Donc c'est la l'utopie, si vous voulez, du royaume de Dieu, hein, des frères et sœurs, qui s'incarnent dans des pratiques très simples. Hein. On s'embrasse, on mange ensemble, on prie pour les difficultés des uns et des autres le dimanche. Donc il y a une personnalisation aussi de la grâce, hein, qui joue. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Europe est quand même un territoire, le continent, le grand continent sécularisé, et que beaucoup de catholiques aussi d'immigration sont stupéfaits de découvrir la faiblesse de la présence chrétienne en France. Je pense notamment à cet ouvrage de Gaston Kellmann, paru il y a quelques années, dont le titre, je trouve, est très parlant. Gaston Kellmann, donc, qui est un catholique camerounais, qui s'est rendu célèbre par ailleurs par son ouvrage je n'aime pas le manioc, alors je suis noir et je n'aime pas le manioc, mais il a publié un autre livre, je trouve très très révélateur, sur ce qui est en train de se passer actuellement dans les dynamiques nord-sud, et le titre de l'ouvrage c'est « Les Blancs m'ont refilé un dieu moribond ».« Les Blancs m'ont refilé un dieu moribond », et il raconte son expérience de Camerounais catholique qui arrive en France, il va à la messe et il a l'impression d'assister à un enterrement. Il a l'impression de quelque chose de funèbre. Alors lui est resté catholique. Il a failli, bon, mais il est resté catholique. Mais beaucoup d'autres, en fait, qui arrivent en région parisienne, bah, ils arrivent catholiques et puis, 3 mois plus tard, ils deviennent évangéliques. Pour les raisons que je viens de décrire, hein, liées en particulier à la sociabilité évangélique, à ce côté fraternité élective qui est médiatisé autrement dans le milieu évangélique et qui du coup, attire beaucoup d'anciens catholiques. Alors, cinquième question, alors un volet de questions, un bouquet de questions. Alors, oui, les fondements dogmatiques, les zones de tension avec le reste du protestantisme sur le plan dogmatique, et puis, oui, les modes de structuration. Alors, sur le plan dogmatique, je ferai d'abord allusion à la proverbiale diversité protestante. Vous connaissez ce mot de Peggy, les protestants sont des chrétiens qui construisent leur propre poteau indicateur. Donc il y a une très grande diversité, hein, suivant les églises. Vous avez des églises qui dogmatiquement sont des objets non identifiés. Vous n'avez pas de confession de foi, vous n'avez pas de résumé de doctrine, on ne sait pas très bien finalement ce qui structure ces groupes. Et puis vous avez d'autres églises avec des textes, des théologiens, des universités, des filières de formation tout à fait labellisées, où finalement on s'y retrouve très bien. Donc il y a une très grande diversité, et je suis un peu embarrassé pour répondre de manière globale, hein, sur les zones de tension avec les autres protestants. Je dirais, pour revenir très brièvement à ce que nous évoquions tout à l'heure, que la zone de tension principale, c'est très certainement sur le statut à donner à l'inspiration personnelle. Quand l'inspiration personnelle prend le dessus sur la référence au texte, là, on est dans une zone de tension majeure, et non seulement dans une zone de tension, mais dans une logique très claire, à mon sens, de sortie du protestantisme. Voilà le libre examen, effectivement, bon, qui était défendu aussi à l'époque par les Quakers, hein, l'inspiration intérieure de l'esprit qui peut déboucher sur toutes sortes de choses. Mais les Quakers, déjà à l'époque, au XVIIe siècle, étaient considérés par les calvinistes et les luthériens comme des non-protestants. Il y avait déjà ce débat interprotestant à l'époque.
La Bible mettait les limites.
Voilà, les limites du libre examen, effectivement, et voilà. Voilà. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on trouve dès le début de la réforme, puisque même avant les Quakers au XVIIe siècle, on a ce qu'on appelle les Schwärmereien et la réforme radicale au XVIe siècle, avec non seulement les anabaptistes, mais aussi les illuministes, qui mettaient l'accent précisément sur l'inspiration personnelle. Il suffit de relire l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Bon, c'est l'inspiration personnelle, le témoignage intérieur de l'esprit. Et là, on ne sait plus très bien si c'est du protestantisme ou si c'est... Voilà. Oui, même si le mouvement piétiste met l'accent par ailleurs sur l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la Bible, le mouvement piétiste. Spener, et c'est, il y a cet accent sur l'étude de la parole de Dieu. Alors que, je vais vous donner une petite anecdote. Un jour, la première fois que je suis allé faire du terrain dans une des plus grosses églises de France, la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. Peut-être que vous avez vu passer des informations sur cette église, qui est une église qui rassemble 5 ou 6 000 Alsaciens tous les dimanches dans un ancien supermarché. C'est une église charismatique qui se rapproche de la Fédération protestante de France. Je suis pas sûr que les autorités de la Fédération protestante de France sachent très, très bien de quoi il s'agit, mais la première fois que j'ai fait du terrain dans cette église, il y a un certain nombre d'années maintenant, je passe devant les locaux de la catéchèse, que les protestants appellent l'école du dimanche, qui est une immense salle, l'école du dimanche. Là, je vois un texte biblique. Bon, je connais un peu la Bible. Et le texte biblique, cité comme référence biblique, 1 Corinthiens 13. Alors là, manque de chance pour eux. 1 Corinthiens 13, c'est un texte que je connais par cœur. C'est le fameux hymne à l'amour de l'apôtre Paul. C'est l'un des plus beaux textes, à mon sens, de la Bible. Un très très beau texte. Hein, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, etc., etc. Donc je connais ce texte. La référence biblique n'était pas tirée d'1 Corinthiens 13. Alors j'appelle une monitrice et je lui dis, vous avez vu là ce texte là qui est placardé sur votre porte? Elle me dit, bah oui, ça fait plus d'un an que c'est là. Et je lui dis, il n'y a rien qui vous frappe? Elle me dit, bah non. Et je lui dis, bah écoutez, ouvrez votre Bible, mais vous verrez que la référence est fausse. Elle me dit, ah bon? Et là, en fait, on était dans une église charismatique, avec par ailleurs un enseignement biblique néanmoins. Mais là, je me suis aperçu quand même que, bon, certes, l'enseignement biblique compte, mais c'est manifestement pas l'élément principal qui est transmis aux enfants et aux fidèles en l'occurrence. Et là, je me dis, c'est quand même intéressant, parce que dans une église de type baptiste ou méthodiste ou réformée, je ne pense pas qu'on aurait pu voir un tel texte avec une référence fausse affichée aussi longtemps sans que personne ne réagisse. Bon, voilà. Alors, qui finance? Je crois que j'ai déjà un petit peu répondu, mais je vais compléter la réponse sur les questions financières. Les protestants, d'une façon générale, et en particulier les évangéliques, ne fonctionnent pas sur un mode top-down, donc pyramidal, mais sur un mode bottom-up. C'est-à-dire que c'est le groupe client, c'est la communauté des fidèles, qui porte la structure et qui finance. Donc en termes de financement, très concrètement, ce sont les fidèles, hein, ce sont les fidèles qui financent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi, par moment, des interférences politiques. Et notamment en matière d'intervention d'organisation non gouvernementale, le département d'État aux États-Unis a par le passé et, à mon avis, continue, su utiliser certaines ONG évangéliques. Je pense notamment à Samaritan's Purse de Franklin Graham, qui est une très très grosse ONG évangélique nord-américaine et une des cinq plus grandes ONG au monde. Cette organisation-là a régulièrement des rendez-vous au département d'État. Alors, il y a des modes de financement qui sont pas nécessairement directs, mais il est clair que les États-Unis ont compris depuis longtemps que les réseaux évangéliques sont un élément clé du soft power. En France, on commence un tout petit peu à bouger sur ces questions et à se dire, tiens, c'est peut-être pas seulement des sectes, il y a peut-être une carte à jouer. Et pour ma part, je ne vous le cache pas, hein, je serai très direct avec vous, en tant que citoyen, je trouve regrettable que, au plan international, la France se prive de tous ses atouts. Or, il existe une vaste francophonie protestante. Très vaste francophonie protestante. Pourquoi laisser le champ libre aux Américains? Vous savez, les Américains, depuis longtemps, invitent des pasteurs francophones aux États-Unis. Leur déroulent le tapis rouge. Ces pasteurs évangéliques disposent, notamment certains pays subsahariens, d'une influence considérable. Pourquoi laisser ce champ à nos amis américains, que nous aimons bien, mais en même temps, nous ne sommes pas nécessairement américains, nous avons notre propre héritage et notre propre politique à défendre, et nous sommes fiers aussi de la différence française, et je crois qu'il serait, de mon point de vue de citoyen, permettez-moi cet excursus, il serait utile que la France joue avec toutes les cartes en main, et notamment les cartes de la francophonie protestante, qui est bien, bien plus vaste que la francophonie franco-française. Un protestant francophone sur 40 est français. Ce qui veut dire que vous avez 39 protestants francophones qui sont congolais, ivoiriens, béninois, burkinabés, et j'en passe. Voilà, donc sur la question du financement, et je crois avoir répondu. Alors, je vais poursuivre. Oui, il y avait un bouquet de questions d'Alain Duhamel, que je remercie. Alors d'abord, en France, où ces églises se développent, combien sont-elles, etc. Alors combien d'évangéliques en France? À peu près 700 000, dont 100 000 non pratiquants. Il y a 10 ans, j'écrivais dans mes travaux, notamment un ouvrage du Ghetto Réseau que vous avez en bibliographie, j'écrivais que la catégorie d'évangéliques non pratiquants n'existe pas, parce que les évangéliques sont des militants. Je me trompais lourdement. Et je n'écrirai plus ce que j'écrivais il y a 10 ans. Et on apprend, hein, petit à petit, par ses erreurs. Et le sondage IFOP 2010, notamment, que nous avions lancé avec Jean-Paul Vihem, montrait bien qu'il y avait une catégorie tout à fait claire d'évangéliques non pratiquants, mais qui se reconnaissent dans cette identité et qui développent avec l'identité évangélique des liens d'appartenance qui ne passent pas par la pratique physique. Et après tout, c'est vrai que il y a des critères d'âge, il y a des critères d'éloignement par rapport à une communauté évangélique. Il y a parfois aussi des éléments liés à la biographie personnelle qui font que durant quelques mois ou quelques années, un évangélique ne pratiquera pas nécessairement, mais se définit néanmoins comme tel. Donc 700 000 évangéliques, dont 100 000 non pratiquants, ce qui veut dire que les autres sont pratiquants. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande majorité des protestants pratiquants aujourd'hui en France sont évangéliques. La grande majorité des lieux de culte protestants en France en activité sont évangélique. L'évangélisme n'est plus le strapontin du protestantisme français. Il est aujourd'hui assez central dans le paysage, il faut bien le dire, même si en termes d'influence politique et culturelle, il reste quand même à la traîne, il faut bien le dire, de la fameuse HSP protestante, la haute société protestante, d'expression plutôt calviniste et un peu luthérienne également. Alors, où il se développe? Alors, quand on cartographie le développement évangélique en France, on voit deux choses. D'une part, en proportion au prorata de la population des départements, on s'aperçoit que les évangéliques se développent mieux là où il y a déjà eu historiquement des protestants. C'est-à-dire, schématiquement, deux grandes régions. D'une part, le Grand Sud, et d'autre part, l'Alsace. Un petit peu la Moselle, mais surtout l'Alsace. Il y a une certaine surreprésentation évangélique dans ces deux grandes régions qui renvoie historiquement à une riche présence protestante. Ça nous montre bien que les évangéliques sont issus de la matrice protestante. Mais un deuxième élément qui est intéressant quand on regarde en valeur absolue, c'est-à-dire simplement le nombre d'implantations évangéliques, sans regarder les pourcentages. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'églises en Ile-de-France, un développement très considérable en Ile-de-France, très considérable dans le nord de la France, avec notamment là des anciens musulmans qui rejoignent ces églises, un développement assez important aussi en Normandie, en Seine-Maritime, des régions qui n'étaient pas nécessairement très marquées par le protestantisme. Et ça nous apprend donc autre chose, c'est que d'une part, les évangéliques réussissent mieux en terre protestante, mais que d'autre part, ils, entre guillemets, gagnent des parts de marché sur des populations qui n'étaient ni protestantes, ni parfois chrétiennes. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et peut-être deux chiffres aussi pour comprendre cette dynamique évangélique en France. Il y avait à peu près 50 000 évangéliques en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bon, nous en sommes à 700 000 aujourd'hui. Donc on est dans une dynamique de croissance. Alors ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre encore indéfiniment. Hein. Moi, je ne suis pas prophète. C'est Pierre Chonu qui disait « l'historien ne prévoit que le passé ». Il avait bien raison. Donc on ne sait pas si dans 30 ans les dynamiques seront les mêmes. En tout cas, actuellement, il y a clairement une dynamique ascendante. Alors comment il se structure? Très rapidement, il y a aujourd'hui une structure fêtière, et c'est quand même bien pratique, qui s'appelle le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, qui regroupe à peu près 70% des évangéliques français, qui s'est créé en 2011 et qui a tenu déjà deux congrès. Et il y a une deuxième structure, évidemment, que vous connaissez mieux, je pense, c'est la Fédération protestante de France, qui existe depuis 1905 et qui, elle, est la maison commune de tous les protestants et qui intègre aussi des évangéliques. Pas tous, mais il y a aussi une part non négligeable d'évangéliques au sein de la Fédération protestante de France. Et ces deux grands réseaux sont les deux principaux interlocuteurs aujourd'hui qui permettent d'atteindre ces milieux protestants ou néo-protestants. Alors les formes de sectarisme maintenant. Oui, bien sûr, il y a des dérives sectaires au milieu évangélique, évidemment, d'autant plus qu'on est dans une logique d'intensité. Et dans une logique d'intensité religieuse, quelle qu'elle soit, il peut y avoir des dérives sectaires. Alors, on peut en repérer deux principales, très rapidement. Première dérive, c'est la dérive seule contre tous. C'est l'église bocale ou l'église insulaire qui pense avoir tout compris et qui s'isole des autres chrétiens. Ça existe aujourd'hui en France. Hein. Alors les plus extraordinaires dans ce domaine que j'ai jamais rencontrés, je pense, c'est une dissidence de dissidence de dissidence de dissidence des darbistes qui eux-mêmes sont un mouvement protestant déjà plutôt réputé pour un certain rigorisme, pour ne pas dire une certaine tendance un peu sectaire. Et là, donc, c'est une dissidence. Et là, ça allait à tel point que ces braves frère de Plymouth numéro 4, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ils sont à peu près 2000 en France, refusent les maisons mitoyennes, et ils ne mangeaient qu'entre membres de la communauté. Ce qui fait que quand ils m'ont accueilli, en tant que chercheur, il était midi et demi, je pensais naïvement que nous mangerions ensemble, ils m'ont dit « Non, non, on a déjà tous mangé ». Je dis « Ah bon ?» Alors, je suis allé m'acheter un sandwich, et puis je les ai retrouvés plus tard, j'ai passé 4 heures avec eux, des gens charmants, hein, par ailleurs, et au bout de 2 heures, je m'aperçois qu'il était inimaginable pour eux de manger avec moi, parce que selon leur lecture des Écritures, le repas est une sainte cène, c'est une communion. Et donc, si on ne fait pas partie de la communauté, eh bien, on ne mange pas avec eux. Alors, c'est extraordinaire. Je n'imaginais pas ça possible en France, dans le monde protestant. Eh bien, si. Donc là, nous avons une illustration de ce premier type de dérive sectaire. Alors, je vous rassure, hein, la grande majorité des évangéliques ne correspondent pas à ce mode de fonctionnement alimentaire. Alors, deuxième type de dérive, c'est la dérive « Dieu m'a dit », où finalement, la parole révélée au pasteur prévaut sur la référence au texte biblique. Et là, dans ce schéma-là, il n'est plus possible, dans la logique protestante, la logique évangélique, il n'est plus possible de contester l'autorité du pasteur. Et là, ça peut devenir très dangereux, parce que finalement, dans la mesure où la référence, c'est la parole d'autorité du leader, du pasteur, lorsque le pasteur choisit d'abuser de son autorité, quelque part, il peut le faire. Il n'y a plus les freins traditionnels du protestantisme qui sont le rappel au principe du sola scriptura. Et à partir de là, on peut avoir toutes sortes de dérives, notamment un pasteur qui peut confondre la caisse de l'église avec son porte-monnaie, des dérives également en matière de prédation sexuelle. Dans certaines églises, il y a des choses assez peu catholiques qui se sont produites dans ce domaine. Et j'en passe. Donc là, c'est le deuxième grand type de dérive sectaire. Alors, les données de vote. Les évangéliques en France, globalement, votent un peu plus à droite que les autres protestants. C'est pas très massif, mais il y a un différentiel d'à peu près 5 points hein, par rapport aux autres protestants. Pourquoi ? Pour diverses raisons. Notamment en raison du fait qu'ils considèrent que la gauche française, depuis maintenant 25 ans, a à peu près cessé le discours du grand soir en matière sociale. En revanche, le dernier horizon de la Révolution, pour la gauche aujourd'hui, c'est le domaine des mœurs. Donc le mariage pour tous, etc., etc., la fin du délai de réflexion autour de l'IVG, et d'autres sujets de cette nature-là, qui sont en lien direct avec la bioéthique et la manière dont beaucoup de chrétiens perçoivent ces questions. Et les évangéliques considèrent qu'avec les dernières réformes sociétales, mais qui déjà remontent à un certain nombre d'années, une partie significative de la gauche s'en prend à un certain nombre de valeurs chrétiennes qui sont jugées structurantes non seulement pour les chrétiens, mais pour l'ensemble de la société. Et donc, au nom de cet accent hein, sur des valeurs chrétiennes jugées bonnes pour toute la société, un certain nombre d'évangéliques ont cessé de voter pour les partis de gauche et reportent leur vote plutôt sur les partis de droite qui sont présumés, à tort ou à raison, moins révolutionnaires hein, sur les questions de mœurs, que les partis de gauche. Voilà. Alors aux États-Unis, on a observé le phénomène comparable. Hein. Jusqu'aux années 70, les évangéliques votaient plutôt démocrates. Aujourd'hui, ils votent en large majorité républicains, hein, pour des raisons finalement assez analogues. Bon, c'est un vaste sujet, on pourrait y revenir ensuite. Alors, il y avait une question. Oui. Une question géopolitique la plus propre aux grandes aires, l'ère latino, l'Europe de l'Est, l'Indonésie, voilà.
Je corrige ce que j'ai dit, je ne voulais pas parler de l'Amérique latine, de l'Amérique hispanophone.
L'Amérique hispanophone, très bien. Oui, merci. Le Brésil est un cas différent, effectivement, il est lusophone. Alors, les différents travaux dont on dispose maintenant sur l'Amérique hispanophone, et Dieu merci, on dispose maintenant vraiment d'une belle bibliographie, on n'en est plus à la situation d'il y a 25 ou 30 ans, montrent que les logiques de développement de ces églises sont maintenant quand même très très largement endogènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication génétique à partir de l'évangélisme yankee d'Amérique du Nord. Il n'y a pas non plus de logique de contamination territoriale progressive via d'abord le Mexique et ensuite l'Amérique centrale, etc. En fait, c'est principalement par le biais des églises déjà implantées que le mouvement évangélique hispanophone se développe. Ceci dit, il faut pas non plus écarter du revers de la main l'influence nord-américaine. Elle est quand même présente. Elle n'est pas motrice, c'est pas l'élément majeur d'explication de l'essor de ces églises, mais elle est quand même présente, et je pense notamment à l'Argentine, qui jusqu'à il y a une dizaine d'années, donc le pays du pape François, l'Argentine paraissait en dehors des schémas d'explication de l'essor évangélique en Amérique du Sud. Il y avait une faible présence évangélique, et puis maintenant elle a explosé. Il y a vraiment un essor vraiment considérable aussi, mais depuis 10-15 ans simplement en Argentine. Et là, en fait, un des éléments d'explication, parce que j'ai un petit peu enquêté sur le dossier, c'est la mise en place par des évangéliques américains, présents sur place, d'un colossal matériel de catéchèse en direction des enfants. Et semble-t-il, un des tendons d'Achille du catholicisme argentin, c'était d'avoir négligé la catéchèse des enfants. Et une mission américaine s'en est aperçue. Ils ont mis en place des matériaux de catéchèse, semble-t-il, très performants, au point qu'ils sont maintenant copiés par la conférence des évêques d'Argentine. Et en touchant des enfants catholiques qui n'étaient pas catéchisés, semble-t-il, suffisamment, ou même pas du tout, dans les paroisses catholiques, eh bien là, il y a maintenant vraiment un effet de seuil qui joue en Argentine, avec un développement tout à fait spectaculaire des églises évangéliques. Alors l'Indonésie, je vais répondre très brièvement, parce qu'en fait, c'est un dossier que je connais mal. J'ai jamais eu l'occasion d'enquêter sur le dossier indonésien. Et c'est par ailleurs d'une très grande complexité, parce que suivant les îles, la composition confessionnelle change du tout au tout. Il y a des îles presque entièrement salafistes, contrôlées par un islam très intolérant, d'autres îles au contraire marquées par une culture pluraliste du meilleur aloi, qui permet à tous de cohabiter, et je dirais même de se convertir mutuellement, sans que ça pose problème. Donc là, je regrette, mais je ne peux pas donner de réponse cohérente et je préfère ne pas improviser une réponse trop approximative. Alors sur l'Ukraine pour moi est un exemple tout à fait intéressant de démenti des grandes thèses du sociologue Steve Bruce. Steve Bruce, qui est probablement dans le monde des sciences sociales et religions le plus grand théoricien de la mort de Dieu. Steve Bruce, au fil de ses ouvrages, a constamment répété qu'une fois qu'un pays européen se sécularise, c'est pour toujours. Que les revivals ne sont possibles que lorsqu'il y a encore un substrat chrétien important. Mais sinon, dit-il, une fois que la sécularisation a vraiment fait son travail, il n'y a pas de chemin de retour vers la foi. Ça, c'est la grande thèse de Steve Bruce, notamment développée dans un de ses ouvrages intitulé « God is dead, secularization in the West ». Or, le dossier ukrainien, pour moi, est une claque, si je puis dire, pour cette théorie. Pourquoi ? Parce qu'on avait quand même là un pays avec des taux de pratique très faibles et qui a connu un revival tout à fait considérable. Un peu catholique aussi, d'ailleurs. Il y a eu une reviviscence du catholicisme, une iate, un revival orthodoxe et un énorme revival évangélique avec, durant une certaine période, durant les quelques années qui ont suivi la chute du rideau de fer, il y avait une église tous les deux jours qui se créait en Ukraine. La plus grosse méga-church d'Europe aujourd'hui est située à Kiev. C'est l'ambassade de Dieu à Kiev, conduite par un pasteur nigérian qui s'appelle Sunday Adelaja, et le maire de Kiev lui-même, Leonid Chernyovitsky, qui est par ailleurs le président de la Pravex, qui est la quatrième banque d'Ukraine, est plus ou moins fidèle de cette église, parce que son fils, qui se droguait, a retrouvé le droit chemin, semble-t-il, grâce à cette église, donc l'ambassade de Dieu à Kiev. Donc là, on a vraiment un développement considérable de l'évangélisme dans un contexte qui, par ailleurs, était considéré comme très sécularisé. Et je trouve que c'est un dossier intéressant. Ça montre qu'il n'y a peut-être pas nécessairement d'évolution linéaire de la sécularisation. Il faut être attentif aux logiques de recristianisation, et pas simplement accorder le crédit qu'il mérite aux thèses de la sortie de la religion ou de la mort de Dieu, même si ces thèses, naturellement, sont intéressantes aussi à étudier de près. Je suis très admiratif des travaux de Marcel Gauchet, par exemple, mais je pense juste qu'il faut, il faut intégrer toutes les variables, finalement, et pas simplement celles qui vont dans le sens d'une certaine grille d'analyse.
Je crois qu'Alain Besançon voulait dire quelque chose.
Oui, je remarque... Une remarque très générale, c'est, disons, entre les l'approche intellectuelle et l'approche émotionnelle envers le christianisme. Là, il me revient à l'esprit une anecdote. Le grand Karl Barth, est un très grand esprit, à Berne, reçoit la visite d'un baptiste, et qui lui demande, de Billy Graham, qui lui demande si on peut faire une réunion. Ben oui, si vous voulez, dit Karl Barth, mais vous n'aurez personne.
Absolument.
Alors, en fait, il est arrivé une gigantesque foule, et plusieurs centaines de braves Bernois, ont fait le pas en avant qui était l'engagement dans le baptisme. Et ça, c'est une chose très générale. Je crois effectivement que ces nouvelles religions sont quand même très peu intellectualisées par rapport aux anciennes.
Absolument. Absolument. Le théologien est une star dans le monde protestant classique. Chez les calvinistes et les luthériens, le théologien, c'est une grande figure. Chez les évangéliques, le théologien, il est regardé avec suspicion. Qu'est-ce que c'est que cet intellectuel qui rationalise tout ? On le regarde avec suspicion. La star chez les évangéliques, c'est le missionnaire, c'est le prophète, c'est l'évangéliste du type Billy Graham, mais c'est certainement pas le théologien, effectivement. Et alors, je pourrais vous en raconter aussi sur le chercheur en sciences sociales, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans des situations de malentendus avec des publics évangéliques qui me regardent. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de parler de nos églises ? Effectivement, on est dans des approches qui sont différentes. Alors, je vais essayer de retrouver le fil des questions. Alors, il y avait des questions sur l'Afrique. Ah oui, et puis alors sur l'infographie dont vous disposez, je tiens à préciser une chose. Cette infographie a été faite par Le Monde. C'est une infographie qui a été publiée il y a quelques jours dans l'Atlas des religions, Le Monde, la vie 2015. Et ils l'ont faite à partir de chiffres que je leur ai donnés, mais ils l'ont faite à leur manière. C'est-à-dire que j'ai pas eu le contrôle sur la manière dont ils ont représenté tout ça. Moi, je trouve que c'est assez bien fait, mais c'est très schématique. Et donc, il y a beaucoup d'éléments chiffrés qui n'apparaissent pas sur cette carte. Et effectivement, il y a quelques ronds bleus qui manquent, notamment pour l'Afrique, c'est évident. C'est évident, on pourrait en rajouter beaucoup. Alors, j'avais une question sur le rôle politique des évangéliques, notamment au Congo-Kinshasa, au Congo-RDC. Il y a deux éléments de réponse, en fonction aussi du type d'église. Vous avez des églises vraiment nouvelles vagues, particulièrement émotionnelles et très prophétiques, qui, à mon sens, ne sont plus protestantes, qu'on appelle les églises de réveil, au Congo-Kinshasa, mais aussi au Congo-Brazzaville, qui se développent à toute allure, portées par des entrepreneurs individuels de bien de salut, comme dirait Max Weber, des prédicateurs charismatiques. Ces églises-là sont très en quête d'influence, mais sont aussi très influençables. Et les politiques en place ont parfaitement compris qu'il y avait moyen là d'obtenir des relais assez aisés auprès de la population. Et donc ce sont des églises qui sont largement instrumentalisées par le pouvoir en place. En opposition à une église catholique qui est beaucoup plus critique par rapport aux dérives du pouvoir. Et ça, je trouve ça intéressant du point de vue de la sociologie du protestantisme, parce qu'on a longtemps eu tendance à présenter l'église catholique du côté du pouvoir, et les églises protestantes, par leur nature décentralisée, locale, des églises protestantes comme davantage du côté du prophète et du côté de la contestation. C'est pas toujours vrai, évidemment. Et dans le contexte congolais en particulier, je dirais, le christianisme prophétique, le christianisme critique par rapport aux dérives du pouvoir, c'est largement le catholicisme, alors que le christianisme qui appuie le pouvoir au risque de cautionner diverses dérives, c'est une partie de ces nouvelles églises évangéliques, en particulier les églises de réveil. Cela dit, je prends soin de ne pas schématiser, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a une grande diversité interne. Il y a aussi, au Congo RDC et au Congo Brazza, des églises évangéliques extrêmement actives sur le plan humanitaire et social. Et je donnerai simplement un exemple. Le docteur Mukwege, hein, dont vous avez entendu parler, hein, qui est cet homme extraordinaire qui soigne donc ces femmes qui ont été victimes d'abus abominables au Kivu en particulier, et il les soigne dans un contexte de guerre et de dénuement impressionnant. Hein, il prend des risques personnels énormes. Et le docteur Mukwege est évangélique, il est pentecôtiste et il est prédicateur le dimanche. Donc il prêche comme un évangélique le dimanche, et par ailleurs, tout le reste de sa semaine, il soigne ces malheureuses qui ont été l'objet des pires sévices. Donc là, on a un exemple assez différent, finalement, de ces églises de réveil, mais qui représente aussi un aspect de cet évangélisme qui est très en prise avec les besoins et les souffrances des gens, finalement, des individus au plan local. Et il faut savoir que la plupart des églises évangéliques ne peuvent pas se permettre d'ignorer les pathologies sociales et les difficultés des fidèles, sans quoi ils vont ailleurs. Et donc beaucoup d'églises évangéliques ont ce rôle de welfare church, à certains égards, hein, donc avec quand même un accent sur l'amélioration du quotidien, hein, pour les fidèles. C'est un des éléments aussi de leur succès. Alors, j'espère ne rien avoir oublié, je crois que j'en arrive peut-être à... Oui, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire.
Non, je ne pense pas. Merci beaucoup. Écoutez,
très bien. Donc, il y avait vos questions. Oui, alors, oui, si vous le permettez, très brièvement.
Oui.
Oui, je ne voudrais pas vous oublier. Excusez-moi. Il y avait vos questions donc sur Louis Dumont. Effectivement, ce protestantisme comme remède aux lumières trop excessives. Immense
comme
sujet.
Comme vaccin.
Voilà, comme vaccin, par rapport aux lumières trop excessives. En un mot, c'est très juste. J'ai vécu un an en Écosse. Jusqu'alors, je connaissais assez mal les lumières écossaises. J'ai eu l'occasion de me renseigner de beaucoup plus près sur les lumières écossaises et me suis aperçu d'éléments qui rejoignent aussi ce qu'on connaît sur l'Aufklärung dans les pays allemands, à savoir qu'en dehors de l'Hexagone, en dehors des lumières françaises, le mouvement des lumières a été beaucoup plus ouvert à l'apport du christianisme et beaucoup moins anticlérical.
Bien sûr.
Donc effectivement, c'est tout à fait juste et on pourrait développer largement sur ce point. Et puis l'avenir, je crois qu'il y avait une question aussi sur.
Mais je crois que vous avez déjà répondu.
Sur l'avenir, donc j'ai déjà répondu. Je vous remercie.
Merci beaucoup de ce débat très riche.
Merci à vous.
Merci à vous.